Il est 17h ici à Washington DC. Eric Manrakiza avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information, le dernier de la soirée. Une nouvelle page de l'histoire d'Israël s'est tournée dimanche avec la fin du règne de Benjamin Netanyahou, écarté par un vote de confiance du Parlement à une coalition hétéroclite menée par son ancien allié Naftali Bennett. Le président américain Joe Biden a félicité dimanche le nouveau Premier ministre qui succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Au nom du peuple américain, je félicite Naftali Bennett, Premier ministre par alternance et ministre des Affaires étrangères Yair Lapid et tous les membres du nouveau gouvernement israélien, a dit M. Biden en disant avoir hâte de travailler avec M. Bennett pour renforcer tous les aspects de la longue et étroite relation entre les deux pays. Merci M. le Président, a rapidement réagi M. Bennett sur Twitter. J'ai hâte de travailler avec vous au renforcement des liens entre les deux pays. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a de son côté adressé ses félicitations à son homologue israélien, Benny Gantz. Le président américain Joe Biden est arrivé dimanche soir à Bruxelles pour participer à un sommet de l'OTAN un lundi et à une réunion avec les présidents des institutions de l'Union européenne mardi, avant sa rencontre mercredi avec le président russe à Genève. Avant son départ pour Bruxelles, la reine Elisabeth II a reçu dimanche le chef de la Maison-Blanche au château de Windsor, à l'ouest de Londres, à la fin du sommet du G7. Ce premier sommet, effectivement, du G7 de Joe Biden s'est terminé aujourd'hui sur des promesses d'agir ensemble entre alliés contre la pandémie et le réchauffement climatique, tout en défiant la Russie et la Chine. Dans son communiqué final, le G7 a appelé Pékin à respecter les droits humains dans le Xinjiang et à Hong Kong. Il a exhorté la Russie à cesser ses activités déstabilisatrices pour son soutien, notamment aux cyberattaques. Le nouveau Premier ministre de transition malien a réuni son gouvernement pour la première fois dimanche en lui assignant une feuille de route très chargée à remplir dans un temps compté avant des élections censées amener les civils au pouvoir en février 2022. Choguel Kokala Maïga a reconnu la gravité d'une période des plus critiques de notre histoire contemporaine. Les Maliens nous observent et comptent sur la réussite de cette transition qui, pour beaucoup d'entre eux, semble être celle de la dernière chance pour sauver la nation, a-t-il dit à l'ouverture de son conseil des ministres. Les deux soldats maliens ont été tués samedi soir dans le nord du pays lors d'une attaque imputée à des djihadistes et 8 casquets bleus ont été blessés dimanche dans l'explosion d'une mine dans le centre. Les résultats des législatives organisées samedi en Algérie seront annoncés dans les jours à venir, a déclaré le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Le pouvoir en place espère que ces élections, conjuguées à une récente vague de répression, permettront de tourner la page de 2 ans de contestation dans la rue, baptisée le Chirac. Moins d'un électeur sur 3 a voté. La participation samedi a été de 30,2%, la plus faible jamais enregistrée officiellement pour des élections législatives en Algérie. Des responsables l'ont néanmoins jugé acceptable. Le président zambien Edgar Lungu, 64 ans, candidat à sa propre succession à la présidentielle en août, a été victime d'un malaise dimanche lors d'une cérémonie officielle, a expliqué la présidence après l'interruption de l'événement retransmis à la télévision nationale. La RDC va reporter à janvier 2022 une série d'hommages à son héros national, Patrice Lumumba, initialement prévu en juin en raison d'une hausse exponentielle des cas de COVID-19, a annoncé samedi le président Félix Tshisekedi. Les ministres de la justice de Donald Trump doivent s'expliquer devant le Congrès sur la saisie de données de parlementaires pendant une enquête sur des fuites d'informations, a confirmé dimanche la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. On a sapé l'état de droit, a-t-elle dit sur CNN, estimant au-delà de l'imaginable que les deux anciens ministres Bill Barr et Jeff Sessions aient dit qu'ils ne savaient rien de cette affaire. Le pape François a souligné dimanche que la mer Méditerranée était devenue le plus grand cimetière d'Europe en se souvenant des migrants qui sont morts en essayant de rallier le continent. Dans sa prière de l'Angelus, il a évoqué une cérémonie organisée en Sicile pour rendre hommage à un naufrage d'avril 2015 dans lequel quelques 800 migrants se sont noyés lorsque leur navire a chaviré